Toutes les portes et toutes les fenêtres, tout est détruit. Et on n'a plus de toit. C'est un grand désastre.
300 000 habitants de Beyrouth, désormais sans abri. Le difficile jour d'après dans la capitale libanaise. Et la solidarité qui s'organise aussi. Nous sommes sur place dès le début de ce journal. En cause, vous le savez, le stockage de près de 3000 tonnes de nitrate d'ammonium. Depuis la catastrophe d'AZF, comment cette substance est-elle stockée en France? On a posé la question.
Lorsqu'il y a par exemple un doute sur une caractéristique technique du produit, l'INERIS intervient pour dire si le produit, pour nous, présente un risque.
Dans ce journal également, nouvelle vague, Laurent le disait, de canicule sur la France et la sécheresse toujours qui préoccupe les agriculteurs. Qui a dit que les Français tiraient au flanc? Nous sommes trop nombreux à aller travailler quand même en arrêt maladie.
C'est pas un rhume ou un petit mal de gorge qui va nous arrêter. Tant qu'on n'est pas à l'article de la mort ou vraiment contagieux, je pense qu'il faut continuer à travailler.
Et puis les festivals de l'été vont bientôt pouvoir accueillir plus de monde. On sera à Ramatuel avec la présidente du festival qui mêle théâtre et humour à la fin de ce journal. Votre invité à 7h40, Sébastien.
La saison touristique, meilleure que prévu, en tout cas moins pire que ce que les professionnels pouvaient craindre. Soulagement, mais tous n'en profitent pas. On en parle à 7h40 avec Michel Durieux qui dirige le comité régional du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Avant cela, l'édito éco et l'inquiétude de la filière agricole face à la sécheresse et votre rendez-vous santé alors que la chaleur arrive. Comment mieux supporter le port du masque? Les conseils du docteur Jimmy Mohamed. Bon réveil à vous. Il est 7h02 sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Sur les 2 millions d'habitants que compte Beyrouth, 300 000 se retrouvent désormais sans toit après la double explosion qui a ravagé la ville mardi soir. Après le choc, c'est la prise de conscience ce matin de l'ampleur réelle des destructions, quartiers entiers à terre comme après un bombardement où chacun tente désormais de trouver un endroit pour s'abriter. Johanna Chabas est l'envoyée spéciale d'Europe 1.
Toutes les portes et toutes les fenêtres, tout est détruit. Et on n'a plus de toit. C'est un grand désastre.
Nour, 26 ans, est dépitée. Impossible de rentrer chez elle. L'explosion a tout ravagé. Elle contemple les gravats qui écrasent les voitures. La poussière vole encore dans l'air. Pas d'électricité. Les habitants s'éclairent à la lampe torche. Le sol brille à cause des morceaux de verre, des vitres et des pare-brise. Afin d'aider les Libanais maintenant sans abri, un réseau de bénévoles a monté des stands de nourriture dans la rue. Nali fait le tour des provisions.
C'est cuisiné par des mères libanaises. Des fruits, des légumes, des gâteaux de riz. En tout, on a plus de 100 000 bouteilles d'eau et on a suffisamment de nourriture pour aider 30 000 familles.
Les Libanais essayent tant bien que mal de s'organiser. Certains habitants décident de rester dehors, devant chez eux, toute la nuit pour empêcher les vols. D'autres, comme Marc, jettent l'éponge.
On est en train d'enlever tout ce qui peut être revendu, comme la cuisine, les chaises, les tables, les enceintes. Vraiment tout, même les vis. Essayer de réduire nos dettes.
Il en est sûr, ce franco-libanais fera tout pour rentrer en France, quitte à laisser toute sa vie libanaise derrière lui. Beyrouth, Johanna Chabas, Europe 1.
L'état d'urgence est décrété pour 2 semaines à Beyrouth où le bilan continue de s'alourdir. Plus de 113 morts à ce stade ce matin et de nombreux disparus. Les hôpitaux sont toujours débordés.
Ceux qui sont encore debout ont dû accueillir plus de 4000 blessés en quelques heures dans des structures déjà saturées avant même la catastrophe par l'épidémie de coronavirus. Écoutez le docteur Ismaïl Assounet du Secours Populaire Français. Il était présent par hasard à Beyrouth pour une mission et depuis plus de 24 heures, il s'occupe en continu des victimes.
Tout le monde il est en train de chercher des places dans les hôpitaux, dans les différentes régions. Voire maintenant, on est en train de chercher des places à 80-90 km de Beyrouth. Les plaies par éclats de verre, surtout quand il y a une quinzaine ou une vingtaine, ça saigne beaucoup. Et donc, ça demande une prise en charge importante et ça demande du temps pour suturer les plaies. Il y a des patients qui étaient obligés d'attendre 3-4 heures avec seulement des compresses sur les plaies en attendant la chirurgie.
Le docteur Ismaïl Assounet joint à Beyrouth par Damien Mestre pour Europe 1.
Et dans un pays gangréné par la corruption, l'enquête s'annonce difficile. Les autorités se renvoient déjà à la balle. Le directeur général des douanes assure avoir signalé 6 fois à la justice libanaise l'existence de ce stock qui risquait d'exploser.
Et en France, comment le nitrate d'ammonium est-il entreposé et surveillé? La catastrophe d'AZF en 2001 a marqué les mémoires et entraîné aussi un renforcement de cette surveillance. Élise Dangean.
Depuis le drame d'AZF, la réglementation française a évolué à plusieurs reprises. Objectif, mieux encadrer le stockage du nitrate d'ammonium et c'est là tout l'enjeu. Car si ce produit chimique seul n'est pas dangereux, il peut se transformer en puissant explosif s'il est par exemple contaminé par une substance incompatible. Sur le sol français, on compte une centaine de sites de stockage, tous soumis à des règles très strictes et à des seuils à ne pas dépasser. 1250 à 5000 tonnes maximum selon le type de produit stocké. Le tout renforcé par des contrôles, comme l'explique Marie-Astrid Soenen de l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement et des risques industriels.
Lorsqu'il y a par exemple un doute sur une caractéristique technique du produit, l'INERIS intervient, réalise des essais sur ce qui est par exemple amené en France par une importation, pour dire si le produit pour nous présente un risque ou pas et si les conditions de stockage qui vont être mises en œuvre répondent bien aux caractéristiques techniques du produit.
Évolution des règles mais aussi des usages. Aujourd'hui, le nitrate d'ammonium français est principalement stocké dans des big bags, ces conteneurs souples et hermétiques qui réduisent le risque d'explosion.
Par ailleurs, on apprend ce matin qu'il y a au moins un Français parmi les victimes, l'architecte Jean-Marc Bonfils, qui avait participé depuis des années à la restauration de bâtiments détruits par la guerre au Liban.
Et ce matin, plusieurs ONG comme la Croix-Rouge lancent des appels aux dons. L'aide internationale aussi commence à arriver pour tenter de soulager les hôpitaux, mais aussi pour éviter le risque de famine. Et Emmanuel Macron sera sur place en début d'après-midi pour évoquer cette aide française vers le Liban.
Et afficher le soutien de la France qui a déjà envoyé des secouristes et 15 tonnes de matériel médical. Une aide saluée sur Europe 1 ce matin par notre invité exceptionnel à 8h15, le ministre libanais des Affaires étrangères, Charbel Warbi, qui vous a accordé un entretien, Sébastien.
À chaque fois que le Liban souffre, c'est la France qui saigne. Et chaque fois que la France souffre, c'est le Liban qui pleure. Donc voilà, on voit les choses comme étant un dialogue entre familles. La France a toujours été à côté du Liban, elle a toujours été à l'appel pour le Liban et une fois de plus, le président Macron a répondu à cet appel de sa propre initiative. Il a pris l'initiative de visiter notre pays immédiatement après la tragédie qui a eu lieu avant-hier.
Le ministre libanais des Affaires étrangères, Charbel Warbi, qui a donc accordé à Europe 1 un entretien exclusif que nous diffuserons tout à l'heure dans son intégralité à 8h15.
Europe 1.
Vous restez avec nous, la suite du journal de 7h dans un instant et la sécheresse qui gagne encore du terrain sur la France alors qu'un nouvel épisode, on le disait avec Laurent Cabrol, nouvel épisode de canicule démarre aujourd'hui. A tout de suite, 7h08 sur Europe 1.
Il est 7h08, la suite du journal sur Europe 1. Théo Manval, Sébastien Krebs.
Et cette nouvelle vague de chaleur donc, qui s'installe sur la France à partir d'aujourd'hui.
Jusqu'à 38 degrés attendus en Aquitaine, on dépassera les 40 demain. Canicule qui pourrait durer une semaine selon Météo France et qui s'accompagne toujours d'un temps très sec. À peine 15 mm d'eau tombée en moyenne sur le pays le mois dernier. 73 départements ont instauré des restrictions comme la Haute-Garonne où les agriculteurs sont désemparés. Benjamin Péter.
La régie le travail et le manque de faute, ça écarte le sol. Tu vois là, la girafe pour la mine, là c'est la sécheresse.
La terre est craquelée et Jean-François Lamassé, dépité, ne peut que constater l'étendue des dégâts. Sur ses 140 hectares de blé, d'orge et surtout de tournesol, il n'est tombé que 3 mm il y a 15 jours et depuis, plus rien. Il s'attend à un gros manque à gagner.
Oui, d'avoir des tournesols en moyenne entre 22, 23 quintaux, 25 quintaux. Aujourd'hui, on va se retrouver des tournesols avec 10, 12 quintaux. À moitié moins, c'est dans des bonnes terres. Moi, je regarde comme tous les agriculteurs, météo-ciel, météo-rama. Quand on voit, comme ce matin, c'est un peu couvert, on a espoir qu'il y ait un orage, mais l'orage ne vient pas. Et on est parti pour une grosse sécheresse. Il aurait fallu qu'il pleuve au moins il y a 3 semaines déjà. C'est comme celui qui est à la banque et qui a un compte déficitaire. Tous les jours, il prend des agios. Nous, c'est pareil. Tous les jours, on perd du rendement, on perd du rendement, on perd du rendement. Et à la fin, il n'y a plus rien. Il est juste pour pleurer. Le pire dans l'histoire, c'est que l'hiver, on a de l'eau, on la gaspille, on ne sait pas plus quoi en faire et on ne peut pas faire de lac.
Lui, pourtant, aurait plusieurs versants où il pourrait créer des retenues d'eau, mais avec le précédent de Sivens, plus personne ne se risque à autoriser la création de lac artificiel. Alors il attend la pluie, peut-être après le 15 août, au mieux quand la vague de chaleur sera passée. À Sabonnère, en Haute-Garonne, Benjamin Péter, Europe 1.
Malgré plusieurs reprises de feu hier après-midi, l'incendie est désormais maîtrisé près de Martigues après avoir brûlé plus de 1000 hectares. Le ministre de l'Intérieur ne veut plus voir de tout jeunes policiers nommés à Paris ou en banlieue. Dans une interview au Point, Gérald Darmanin estime qu'il leur faut plus de formation. Concernant l'enquête dont il est l'objet pour viol, il se divisé par la calomnie. La victime dans cette histoire, je cite, c'est moi.
Gérald Darmanin qui demande aussi un renfort des patrouilles de police et la généralisation de la vidéosurveillance dans les transports, car les actes de délinquance sont en hausse. On a beaucoup parlé de la mort de ce chauffeur de bus à Bayonne. Des renforts qui ont déjà été déployés, par exemple à Lille, où on compte près de 3000 interpellations chaque année. Reportage de notre correspondant Maximilien Carlier.
Un TER en provenance de Douai arrive en gare Lille-Flandre. Sur le quai, des patrouilles de police du service interdépartemental de sécurisation des transports en commun.
Bonjour monsieur, le masque s'il vous plaît, merci.
Retour en règle.
Bien souvent, juste en faisant la remarque, ça se passe bien. Après parfois on peut tomber sur des individus un peu plus récalcitrants.
Et cela peut dégénérer, dans le pire des cas se transformer en agression, comme à Bayonne avec le décès d'un conducteur de bus. François de Brouwer, commandant de police, chef du SISTC.
Bien sûr, on l'a en permanence en tête. Et clairement, ce qui est arrivé là-bas pourrait arriver dans n'importe quelle grande métropole.
Le secret, c'est la rapidité, intervenir au plus vite. Et pour cela, il y a le PC sécurité dans les entrailles du métro. Une salle remplie d'écrans, 1500 caméras filment les stations de métro, tramway, dans les gares ou aux abords.
Clairement, ici, on voit exactement ce qui se passe en temps réel.
Sur un rétroprojecteur, une carte de la métropole lilloise avec des flèches bleues en mouvement, les bus sont géolocalisés.
Si un conducteur de bus a une difficulté, il peut appuyer sur une pédale d'alerte qui va immédiatement alerter le PC sécurité. Le port du masque dans les transports en commun, c'est un vrai sujet. C'est 2500 verbalisations effectuées par notre service depuis le début de la crise du Covid. C'est énorme. C'est énorme.
Une problématique qui s'est ajoutée à toutes les autres, alcoolisme, agression. Voilà la tire. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Le nombre de nouveaux cas journaliers de coronavirus atteint un plus haut en France depuis deux mois. Près de 1700 nouvelles contaminations. Et quand on n'est pas malade du Covid, mais de toute autre chose, Sébastien, il est apparemment très français de continuer à aller travailler.
Oui, c'est ce que révèle une étude publiée hier soir par la direction statistique du ministère du Travail. Avec ce chiffre, nous passons en moyenne un quart de nos journées d'arrêt maladie au travail. Olivier Samain.
Ça n'a pas valeur de sondage, évidemment, mais tous les salariés que nous avons interrogés hier le reconnaissent. Venir travailler alors qu'ils ne se sentent pas bien, ça leur arrive souvent. Corentin, par exemple.
C'est pas un rhume ou un petit mal de gorge qui va nous arrêter. Tant qu'on n'est pas à l'article de la mort ou vraiment contagieux, je pense qu'il faut continuer à travailler.
Ce que nous apprend l'étude du ministère du Travail, c'est que le présentéisme est un phénomène très français. Les salariés des autres pays européens qui sont malades s'arrêtent généralement plus vite. Oui, mais... il peut y avoir de bonnes raisons, rétorque Gwenaël.
Parfois, il y a des choses sur lesquelles personne autour de moi, enfin dans l'équipe, ne peut le faire à ma place. Et puis, vis-à-vis de l'équipe, ça peut être de la culpabilité à ne pas venir, ou ça peut être une charge de travail qui va s'accumuler et ça sera pire à mon retour.
Les adeptes du présentéisme sont plus souvent les femmes que les hommes, plus souvent les cadres aussi, plus souvent les seniors, plus souvent, enfin, les salariés confrontés à une pression temporelle ou à des relations difficiles avec leurs supérieurs. Et pourtant, venir travailler quand on est malade n'est pas forcément un bon calcul. D'abord parce qu'on risque de contaminer ses collègues, mais aussi parce qu'en ne se soignant pas tout de suite, on risque d'être malade plus longtemps, ce qui coûtera plus cher à l'entreprise et à la collectivité.
Un pic de pollution à l'ozone en Île-de-France. Circulation différenciée à nouveau mise en place aujourd'hui. Seuls les véhicules avec les vignettes critères 0, 1 et 2 sont autorisés à circuler jusqu'à 20h. Aux États-Unis, Donald Trump, une nouvelle fois épinglé par les réseaux sociaux pour désinformation. Twitter bloque son compte de campagne et Facebook retire l'une de ses vidéos dans lesquelles il affirmait que les enfants sont presque totalement immunisés contre le coronavirus. C'est évidemment faux. On termine ce journal, Sébastien, sur la route des festivals. On le disait hier, ils vont pouvoir reprendre avec plus de 5000 personnes sous condition à partir du 15 août. Et ils sont rares, ceux qui se tiennent quand même tout court. Cet été, nous sommes à Ramatuel ce matin.
Bonjour Jacqueline Franjou.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes la présidente du festival de Ramatuel. C'est vrai que revoir cet été les spectateurs s'installer sur les coussins rouges dans votre théâtre de verdure, ça doit être un immense soulagement, j'imagine.
C'est non seulement un immense soulagement, mais c'est surtout une émotion terrible. Parce que tous, pour la première fois, artistes et techniciens, n'avaient pas joué depuis le mois de mars. Donc c'est extrêmement émouvant et c'est vrai que c'est tout à fait spécial de regarder une salle avec un public qui vraiment voulait revoir et revoir tout ce qui se passait sur scène.
Et d'autant plus spécial que ce public est donc masqué, bien sûr. Vous avez aussi dû limiter le nombre de spectateurs. Quelles mesures vous avez prises ?
Limiter de 1200 places. D'abord jusqu'à 700, première mesure, d'accord, en accord avec les services préfectoraux. Ensuite, température. Ensuite, distanciation en rentrant dans le théâtre. Port du masque à l'entrée et à la sortie. Port du masque pendant tout le spectacle. interdit de lancer les coussins sur scène cette année.
Ah oui, pas de respect de la tradition.
Voilà, et toutes mes équipes ont été testées.
Vous n'avez pas eu peur de créer un potentiel cluster ?
Si je vous dis curieusement non, parce que je suis quelqu'un d'assez prudent et on est assez responsable avec mes équipes et avec Michel Bougelat. Donc non, parce que je crois que les gens qui viennent au festival, et nous sommes des gens prudents, c'est-à-dire avec le port du masque, systématiquement, le lavage des mains aussi. Non, maintenant, peur non, on sait que le virus circule, et comme tout le monde, je veux dire, c'est très anxiogène. Mais vous voyez, quand je vois ce qui... Je pense à Beyrouth aujourd'hui, et parfois je me dis qu'il y a encore pire.
Un mot de la programmation quand même pour cet été, Jacqueline Franjou, vous avez dû monter ce festival un petit peu en urgence.
Des parties de la programmation se sont annulées, comme les variétés, comme Souchon, ou Catherine Ringer ou Gad Elmaleh, parce que les tournées ont été annulées. Donc des artistes nous ont téléphoné, comme Pierre Palmade, en disant « je veux venir jouer, je veux soutenir le théâtre ». Et ainsi que d'ailleurs le spectacle, et pendant ce temps-là, Simone Veil ou Opéra Locaux, et Michel Bougenat, inconnu à cette adresse, avec Charles Berling. Donc il y a eu, de la part des artistes, un souhait vraiment de venir jouer à Ramatuelle, et je les en remercie. Et encore une fois, c'est indispensable, et même si ce petit écosystème qu'est Ramatuelle, non pas servir d'exemple, mais montrer qu'on veut vraiment donner espoir et se battre pour que tout cela réussisse, évidemment.
Un dernier mot, il y aura des conséquences financières pour vous ?
Indiscutablement, quand vous passez de 1200 à 700 places, indiscutablement des conséquences financières. Mais tous les partenaires étaient présents pendant toute la durée du festival. Ils ont même proposé, si jamais on annulait, de garder ce mécénat et ce sponsoring pour l'année prochaine. Mais je crois que si j'avais annulé le festival cette année... C'est très difficile, vous savez, de reprendre une manifestation, un événement comme cela, après. Donc voilà.
Merci beaucoup Jacqueline Franjou, présidente du Festival de Ramatuelle, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Le Festival de Ramatuelle jusqu'au 11 août.
C'était le journal de Théo Manval. Prochain journal à 7h30 tout à l'heure avec Sophie Tussaud.